qu'il y a du nouveau dans votre supermarché Dia.
Oh, du foie gras ?
Oui, du bon foie gras pour Noël. Parce qu'en ce moment, chez Dia, pour l'achat d'un bloc de foie gras du Sud-Ouest, la Berry, le deuxième est offert.
Est-ce qu'après, on aura le bel accent du Sud-Ouest ?
On a encore plus de raisons d'aller chez Dia. Au rayon frais, 200 grammes, origine France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission pleine de cow-boys et d'indiens que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous confie un petit secret. J'ai pris l'habitude depuis mon enfance de mettre à profit la période de Noël pour regarder tranquillement deux ou trois grands westerns qui vous dépaysent complètement et vous entraînent loin dans le Grand Ouest. Eh bien cette année, nous disposons pour nous repérer dans l'abondance des productions hollywoodiennes d'un véritable viatique, un coffret somptueux intitulé « Encyclopédie du Western » sous la houlette du créateur du cinéma de minuit, Patrick Brion, en personne. Il est notre invité cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Loïc sur l'origine de l'expression « dépotron miné ».
Encore une drôle d'expression, nous en aurons eu notre sou cette semaine. En attendant, je vous propose de nous jeter avec armes et bagages dans le Grand Ouest américain à travers une des histoires les plus saisissantes que j'ai jamais eu à raconter.
Repin au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est un beau western de 1960 réalisé par Anthony Mann avec Glenn Ford et Anne Baxter. La ruée vers l'ouest raconte l'extraordinaire migration de ces familles venues de l'Est américain, encouragées par le gouvernement fédéral, on est vers la fin des années 1880, à coloniser les terres occidentales, en l'occurrence les territoires vierges de l'Oklahoma. Il y a eu comme ça un certain nombre de vagues, si je puis dire, et de campagnes du gouvernement de Washington pour encourager les citoyens qui vivaient plutôt vers l'Est des États-Unis à aller coloniser toutes ces nouvelles terres. C'était ce qu'on appelait « the frontier », vous savez, la frontière, cette espèce d'horizon de l'Ouest. On voit dans ce film un océan de chariots bâchés avancer comme une sorte de marée sur fond de rocheuses avec inséparable et chevillé au corps l'espoir de s'établir en une terre promise et la crainte d'être attaqué par les Indiens, les Amérindiens comme on dit aujourd'hui, occupant des lieux depuis des temps immémoriaux. D'autres grands films, exactement, d'autres grands films du même genre ont pris pour thème ce mythe de la frontière tellement fort aux États-Unis. Aucun ne s'est encore voué à l'évocation d'une des histoires de l'Ouest les plus inouïes que je connaisse, je vous disais ça à l'instant. Je l'avais raconté ici même, cette histoire, il y a plusieurs années. Je ne résiste pas à l'envie d'y revenir aujourd'hui, rien que pour vous faire dresser les cheveux sur la tête. Nous sommes en 1846, dans le Grand Ouest américain. De très hautes montagnes dressent leurs masses grandioses sur l'horizon. C'est la Sierra Nevada, juste à l'est de la Californie, je vous le disais. Il ne manque plus qu'un John Ford ou un Howard Hawks pour évoquer ce décor sublime en cinémascope. Premier plan sur l'écran, tout un convoi de chariots bâchés, tirés par des paires de bœufs, ces hommes et ces femmes venus de l'Est et du Middle East, en l'occurrence de l'Illinois, juste au sud des Grands Lacs, ces migrants du milieu des années 1840 sont emblématiques de cette formidable poussée vers l'Ouest des populations d'Américains, intimement pénétrées de leur droit à coloniser ces nouvelles terres du continent, quitte à en exterminer les occupants amérindiens, quitte à en chasser les autres peuples, notamment les hispano-américains du Mexique, qu'il ne faut jamais oublier, qui ont été chassés du Texas dès 1835. Au Mexique, 12 ou 13 ans plus tard, les États-Unis soustrairont la Californie. Voilà de nouvelles terres bien riches sous un climat propice, de nouvelles terres à coloniser. Au fort attrait déjà exercé par le Grand Ouest sur les populations de l'Est des États-Unis, accru sans cesse par l'immigration, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il y avait tous ces bateaux de migrants qui arrivaient d'Europe à l'époque, viendra se greffer en 1848, 49, 50 le phénomène de masse de la ruée vers l'or, avec cet attrait du précieux métal. Mais en 1846, l'année qui nous intéresse, on n'en est pas encore tout à fait là. Au printemps 46, la famille Graves, il y a le père Franklin, la mère Elizabeth et leurs 6 filles, ainsi que leurs 3 garçons, donc une espèce de grande famille américaine, comme on les aime, les Graves quittent leur Illinois démunis avec l'espoir de trouver, sinon la fortune, du moins de bonnes terres là-bas, tout là-bas, à l'ouest, en Californie. Go West! Les Graves ont vendu la ferme, ils ont acheté des bœufs de trait qu'ils ont attelés à 3 chariots munis d'arceaux et recouverts de belles bâches blanches comme les voiles des caravelles d'autrefois, des caravelles terrestres en quelque sorte. Ces chariots où s'entassera tout ce qu'ils possèdent. Et voilà le début de la grande aventure. Un voyage qui pourrait bien durer 15 semaines, peut-être même 18, 3500 kilomètres à couvrir au pas des bœufs jusqu'à la terre promise californienne. Ils n'ont pour viatique ces Graves que le guide de Hastings, une sorte de manuel de circonstances bourré de recommandations à l'usage des candidats à la conquête, et pour compagnon tout de même un certain John Snyder, enrôlé par Franklin, un intrus qui plaît tout de suite aux Mademoiselle Graves, disons-le. L'aînée Sarah vient de se marier, elle a épousé Jay la veille du départ. Jay fera donc partie lui aussi de l'incroyable expédition entre nous. Alors je ne peux malheureusement pas, et je l'aurais aimé, je ne peux pas vous raconter dans le détail toute l'équipée des Graves. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage qui raconte cette aventure et dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Sachez seulement pour le moment que les Graves, à mesure qu'ils cheminent, vont se lier naturellement à différents convois empruntant les mêmes routes qu'eux, avec forcément les mêmes rêves. Et sachez surtout qu'ils ne vont pas tarder à rejoindre le gros convoi dirigé par George Donner. Retenez bien ce nom. Donner, un riche fermier de 62 ans venu lui aussi de l'Illinois avec sa 3e femme, la petite et très énergique Tamsen, et une partie de leurs enfants. Le convoi Donner, auquel s'est joint la riche famille Reed, forme déjà une belle caravane d'une dizaine de chariots, dont un luxueux chariot à 2 étages, une 40aine de migrants. Oh, on a presque envie, en les voyant ainsi s'avancer dans la Sierra, de leur faire naturellement confiance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et l'émission d'aujourd'hui aurait pu s'appeler « Il était une fois dans l'Ouest » puisque vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand, la Donner Party. C'est comme ça que s'appelle cette histoire aux États-Unis. Donc nous suivons le gros convoi dirigé par le riche fermier George Donner.
Ce George Donner a choisi de suivre un raccourci indiqué par son fameux guide Hastings, vous savez. Et c'est ainsi que le convoi Donner, sans cesse accru parce qu'il va bientôt se composer de 40 chariots, vous imaginez ça. C'est ainsi que ce troupeau de chariots bâchés, si je puis dire, abat les kilomètres et traverse les rivières. C'est la grande difficulté en l'absence de pont. Il faut parfois construire des radeaux. Tout ça est très difficile. Les pauvres pionniers, très courageux, serrant les poings, affrontent jour et nuit un environnement de plus en plus hostile. Un environnement rendu pénible par un froid précoce cette année-là, puisque dès le 1er juin, on se croirait en novembre, et par des pluies incessantes. Or, les toiles du campement sont très loin d'être étanches. Donc il se met à pleuvoir à l'intérieur même des campements. Et quand le beau temps revient, il faut affronter la chaleur, la soif, les moustiques, toutes sortes d'accidents plus ou moins graves. J'en passe, évidemment. Précisons tout de même que les chariots sont réservés au matériel et aux malades. Les gens valides ou prétendus tels doivent tout simplement aller à pied pour soulager les animaux de trait. C'est un exode harassant qui ne va pas tarder à devenir le plus effroyable des calvaires. Au comptoir commercial de Fort Bernard, on s'équipe tout de même de chevaux. On remplace les bœufs de trait, en tout cas certains. À cet endroit, la longue caravane croise la route de plusieurs centaines de Sioux, dont les ornements d'apparat font l'admiration secrète des voyageurs, à commencer par la deuxième fille des Graves, Mary Ann, un esprit curieux et même aventurier. Mary Ann, c'est le personnage intéressant peut-être de cette histoire. Du reste, un jour qu'elle chevauche derrière le chariot de ses parents aux côtés de son frère William, plusieurs Sioux viennent les entourés et il propose d'acheter Mary Ann. Le tarif pour une jeune femme est généralement de 2 Mustangs, ce sont de superbes chevaux hein, quand même les Mustangs, mais cette fois les acquéreurs semblent prêts à tripler voire même à quadrupler la mise. Les Sioux ne sont pas les seuls à s'intéresser à Mary Ann Graves. John Snyder, l'homme de main recruté par Franklin, a jeté son dévolu sur elle. Mary Ann est flattée. Elle lui concède de temps en temps un baiser volé, c'est l'amourette de ce voyage, mais elle ne se sent pas prête à lui donner davantage. L'itinéraire suggéré par Hastings à Donner s'écarte de plus en plus de la route connue. Il passe par le désert de sel de l'Utah. Il présente à l'évidence des risques terribles. L'épouse de George Donner, Tamsen, l'a dit, elle l'a répété, mais personne ne l'écoute. Les femmes à l'époque n'ont guère voix au chapitre et les leaders du groupe ne jurent que par ce petit guide, là, par ce Hastings. Et c'est ainsi que la caravane est en train, tranquillement, terriblement, de s'engager sur un chemin fatal. Le 22 août, la caravane pénètre dans la vallée du Grand Lac Salé. Il porte bien son nom. La soif se fait sentir cruellement. Les bœufs, les mules sont rendus fous par la soif. On va en voir qu'ils s'enfuient carrément, qu'ils disparaissent dans ce désert blanc où ils constitueront bientôt ces affreuses carcasses qui constituent parfois le décor des westerns, vous savez. Tout ça oblige les pionniers à abandonner une partie des chariots avec tout ce qu'il y avait dans les chariots. C'est à ce moment-là que commence ce qu'on peut appeler l'enfer du sel. Un paysage désolé, sans point d'eau, recouvert d'une sorte de croûte de sel qui luit au plein soleil. Les membres de l'expédition ont enfin pris conscience de leur erreur. Ils savent que sans secours, ils ne pourront pas s'en sortir. Le 11 septembre, ils envoient deux émissaires à cheval en direction du Fort Sutter en Californie. Ils ont pris soin de choisir un père de famille parmi les deux hommes en question, laissant derrière lui sa femme et sa fille. On se dit qu'il ne sera peut-être un peu moins tenté de les abandonner à leur sort funeste, parce qu'après tout, sinon il y en a qui pourraient partir comme ça, s'échapper au convoi et ne jamais donner signe de vie. Au sein du groupe, de ceux qui restent, bien sûr, les tensions sont terribles. Des disputes ne cessent d'éclater et c'est au cours d'une de ces disputes que James Reed finit par planter son couteau dans la poitrine de John Snyder, le fiancé officieux de Mary Ann. Vous savez, ça c'est un drame, mais ce n'est encore que le premier d'une terrible série de drames. Un autre homme va bientôt mourir du reste, trop âgé, trop épuisé pour continuer. Lui préfère se laisser mourir sans que les autres tentent quoi que ce soit pour l'en dissuader. On peut se demander si le désespoir ne serait pas en train de transformer ces hommes et ces femmes en véritables animaux. Les pionniers du convoi d'honneur, comme une horde de morts vivants, se traînent maintenant aux limites du Nevada. La caravane se disloque, c'est déjà le règne du chacun pour soi. Ils ont survécu à la soif, maintenant qu'ils sont parvenus sur les bords du lac Truckee, bientôt rebaptisé lac d'honneur en mémoire de la tragédie qui est en train de se profiler. C'est déjà l'automne, il neige maintenant sans discontinuer, vous imaginez les souffrances infligées par le froid, par l'humidité à de pauvres gens qui n'ont plus vraiment de quoi se protéger. Le 12 novembre, une quinzaine de volontaires, et parmi ces volontaires on compte notre fameuse Mary Ann dont je vous parle depuis le début, une quinzaine de volontaires donc tentent de profiter d'une embellie pour partir à leur tour à la recherche de secours. Mais il y a la neige maintenant, après le sel, après le soleil, mais maintenant c'est le vent, la neige, une neige trop épaisse et qui s'oppose à tout échapper. Le soir même, ils vont être obligés désespérés de rebrousser chemin jusqu'au camp. Ils feront encore les uns et les autres bien des tentatives, en vain, je n'ai pas le temps de toutes les énumérer évidemment. Et un bon mois plus tard, le 16 décembre, Mary Ann se retrouve de nouveau au milieu d'une petite troupe de 14 jeunes gens qui, laissant derrière eux, et les adieux, croyez-moi, ont été déchirants, laissant les pionniers plus âgés. Les jeunes sont partis devant, si je puis dire. Parmi ceux-ci, seul Franklin Graves, qui est âgé de 57 ans, a eu le courage de se joindre à ce qu'il faut regarder comme une équipée de la dernière chance. «
the river.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, nous sommes sur les routes de la conquête de l'Ouest avec ce fameux convoi dirigé par le fermier George Donner, la Donner Party.
Certains ont quitté le convoi, vous l'aurez bien compris, on a envoyé des éclaireurs qui ne sont pas revenus et puis bien les plus jeunes sont partis eux aussi pour essayer de se sauver, si l'on peut dire, et désormais au camp. Parmi ceux qui restent, les décès vont se succéder. Le 25 décembre, parmi les rares qui ont encore assez de force pour se souvenir que c'est Noël, on sort les ultimes, les misérables provisions et l'on organise le plus pathétique des repas de fête. Il y a là quelques pommes séchées, quelques vieux haricots, des tranches de tripes et de lard. Du côté des éclaireurs, ce qu'on appelle la troupe sacrifiée, Franklin sent venir la mort, lui aussi, parce qu'il faut pas croire qu'ils vont s'en sortir mieux, loin de là. Alors Franklin fait venir auprès de lui ses deux filles, Marianne et Sarah, et il leur adresse une supplique. Il leur dit que ses forces l'abandonnent, qu'il se sent partir et qu'il les prie, qu'il les supplie, que dis-je. En tant que père, il leur ordonne de rendre sa mort utile. Et puisqu'il n'existe absolument aucun autre moyen de survivre, de se nourrir, après sa mort, de sa dépouille. Ai-je besoin de vous préciser que c'est ce qu'elles feront, mais qu'elles le feront la mort dans l'âme? Sur les 15 membres de ce qu'on appelle la troupe sacrifiée, 5 femmes et 2 hommes seulement auront survécu, et un seul des hommes morts n'aura pas été mangé. Le 7 janvier 1847, les 7 survivants, plus morts que vifs, vont finir par atteindre un village d'Indiens. Ils pourront dès lors enfin prévenir les troupes qui sont au Fort Sutter, alerter les secours. 4 équipes de sauveteurs vont se rendre au lac Truckee, qu'on appellera donc assez bientôt le lac Donner, et qui conserve ce nom bien entendu. Au total, sur les 87 pionniers du Donner Party, 41 sont morts dans les conditions que vous connaissez maintenant et sur lesquelles je n'ai pas besoin de m'étendre davantage. Quant aux autres, ils survivront, oui, mais vous l'aurez compris, à quel prix ? Le 16 mai de cette même année 1847, Marianne Graves épousera l'un des secouristes du lac, Edward Grandpile Jr., mais cet époux va disparaître un an plus tard, attrapé au lasso par un tueur à gages et traîné derrière un cheval sur plusieurs centaines de mètres, une sombre affaire de règlement de compte, comme on en trouve, bien entendu, dans ce Far West, comme on en trouve, bien entendu, dans un grand nombre des westerns qui ont fait, on pourrait presque dire, le socle, le fond, la substance même du grand cinéma hollywoodien et sur lesquels nous allons nous étendre maintenant. Bonjour Patrick Brion.
Bonjour.
Je vous vois songeur à l'idée des souffrances des pionniers du Donner Party.
Pour éviter les raccourcis souvent.
Oui. Il y a des raccourcis qui peuvent coûter la vie, en l'occurrence, et beaucoup de souffrances avant qu'on finisse par périr. Alors, il n'y a pas que des westerns sombres, même s'il y en a beaucoup. Votre encyclopédie est une mine, c'est le cas d'employer l'expression, une mine inépuisable, et nous allons, grâce à vous, essayer de faire un beau voyage au milieu de l'univers du western.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Avant de vivre l'esprit de Noël sur Europe 1, nous vivons l'esprit de la conquête de l'Ouest. Franck Ferrand, vous recevez aujourd'hui Patrick Brion, créateur et animateur du cinéma de minuit sur France 3, historien du cinéma et spécialiste du cinéma américain, auteur d'un magnifique coffret, l'encyclopédie du Western aux éditions Télémaque, et vous entendez la musique de la bande originale du film Les Cavaliers de John Ford.
Et on a été gâtés parce que grâce à notre programmateur musical, Benoît Valentin, nous avons eu un grand nombre d'indicatifs, de génériques de western. Hein. On peut peut-être les citer d'ailleurs, oui. Anissa.
Beaucoup de films de John Ford. Le massacre de Fort Apache avec John Wayne.
Ça, c'est le premier qu'on a entendu tout à l'heure.
Le deuxième, c'était la bande originale de La Chevauchée Fantastique, et là aussi, de John Ford. Et puis La Charge Héroïque. Beaucoup de grands, grands films de la conquête de l'Ouest américain.
C'est peut-être ce qu'il faut commencer par souligner, Patrick Brion, c'est que les westerns sont d'abord de grands morceaux de cinéma. Ce sont de, pour certains en tout cas, parce qu'il y a de tout, hein, il y a de très très bons westerns et des nettement moins bons, mais il y a de très grands films parmi tous ceux que vous présentez dans cette encyclopédie.
Ah, il y a des chefs-d'œuvre, c'est un genre très très riche. Un genre où il y a eu de multitudes de films, plusieurs milliers, mais en même temps... Ceux qui croient que c'est uniquement un genre où on voit des types avec des grands chapeaux en train de se poursuivre dans un saloon, c'est pas ça du tout. C'est un genre, au contraire, très, très ambigu, parfois, qui suit en même temps l'histoire de l'Amérique. L'Amérique a évolué, le western a évolué en même temps que l'Amérique.
Bien sûr. Et il est une sorte de miroir, d'ailleurs, de la société des années 30, 40, 50. Enfin, on va voir tout à l'heure, on va venir à l'âge d'or du western, c'est-à-dire juste avant-guerre et juste après-guerre. Hein. C'est la grande période des westerns classiques, si l'on peut dire. Alors, la ruée vers l'ouest et la conquête des nouveaux territoires a constitué l'une des thématiques du western, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la guerre de sécession, il y a la justice rendue dans les villages perdus de l'ouest. Il y a comme ça un grand nombre de thématiques.
Ah, le plus grand thème, c'est la conquête de l'ouest, c'est la conquête de la terre.
Le Far West, là-bas.
Il faut pas oublier qui étaient ces immigrés. C'était des gens qui venaient de Russie, qui venaient d'Italie, qui venaient d'Irlande. Qui étaient des durs de durs avec leur famille et ils n'avaient plus de terre. Et ces gens qui n'avaient plus de terre n'avaient qu'un souci, qu'un besoin, c'est de trouver une terre, d'y planter une tente, ensuite un ranch et d'y élever une famille. C'est ça.
Et alors, il y a eu beaucoup de, disons-le, il y a eu beaucoup de ces familles très pacifiques qui se sont, j'allais dire, gentiment implantées et qui peu à peu ont fait souche dans tous ces états de l'Ouest américain. Mais ceux auxquels on a tendance à s'attacher dans les westerns, ce sont les grandes figures, que ce soit des grandes figures de justiciers ou bien entendu de gangsters.
Oui, parce que la terre, il fallait la conserver. Quand on parvenait à la voir à la suite, justement, d'une de ces ouvertures dont vous parliez tout à l'heure, quand on avait un petit lopin de terre, on mettait son clem, on mettait un morceau de bois pour montrer que cette terre vous appartenait. Et ensuite, il fallait le défendre. Il fallait le défendre contre les hors-la-loi et souvent en chasser les Indiens.
Alors on va venir dans un instant aux différentes périodes de tournage des westerns. Pour ce qui est des périodes de référence, l'essentiel de l'action se situe généralement entre la fin de la guerre de sécession, 1865, et on va dire le milieu des années 1890, avec un pic, là, je crois que c'est les deux tiers des histoires qui se situent dans les années 1880. Mais il y a des westerns beaucoup plus anciens, si je puis dire, qui racontent carrément les tout débuts de la colonisation dans le premier tiers du 19e siècle, et des westerns plus modernes qui se passent après 1900. Ça existe aussi.
Oui, si on prend les adaptations de Fenimore Cooper, on
par
est
exemple,
avant
oui.
la fin de la guerre de sécession, avant même le début de la guerre de sécession. Alors, dans le livre, j'essayais de regrouper, en effet, il y a aussi bien l'appel de la forêt
et
qui
oui.
se passe en Alaska, que Veracruz, qui se passe au Mexique.
Tout à fait dans le
western,
sud.
Le western, il est très, très large.
Oui, on est à l'ouest, ça c'est sûr, mais on peut être à l'ouest très au nord ou à l'ouest très au
très
sud.
La seule chose que j'ai pas mis, c'est ce qu'on appelle les westerns modernes. C'est-à-dire un homme est passé.
C'est un livre incroyable que vous avez fait là. Je dis un livre, d'ailleurs, il est en deux tomes. Ce sont deux gros tomes qui doivent peser à peu près 3 kilos chacun.
Oui, je crois. Enfin, 3 kilos 5.
Voilà. Réunis dans un énorme coffret. Pour les amoureux de western, il y a toutes les affiches, toutes les fiches techniques des films, les biographies, non seulement des réalisateurs, mais des grands comédiens et comédiennes, des photos, une foison. Vous avez dû faire un travail, mais considérable pour réunir cette immense moisson de documents.
Oui, c'est assez, c'est parfois compliqué, mais en même temps très intéressant parce que c'est une joie de faire de la recherche et de chercher des documents.
Votre passion du cinéma, Patrick Brion, les Français la connaissent et elle est contagieuse, mais vous avez aussi une passion du western particulièrement?
Bon, j'aime beaucoup le cinéma américain, ça c'est pas un secret, et c'est vrai qu'à l'intérieur du cinéma américain, deux des genres peut-être le plus important, c'est le western et le film policier, le film noir. Oui, ce sont les gens qui représentent l'Amérique.
Je sens qu'on ne va pas tarder à voir fleurir une encyclopédie du film noir.
C'est encore plus compliqué à choisir que le western, qui est déjà compliqué.
Alors, quel a été le tout premier western? On est au début du cinéma, j'imagine, là.
Tout au début, le cinéma est né en 1885. En 1903, il y a le vol du rapide. Et vol du rapide, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, comme son nom l'indique, un train qui est attaqué par des bandits. Ça fait un effet énorme. Le film est très très court. Et le plus grand effet qu'il y a, c'est lorsque l'un des bandits fait face au spectateur, voilà, qui n'est pas habitué, avec une arme.
Et c'est ça. Les spectateurs qui ne connaissaient pas le cinéma, évidemment, n'étaient pas habitués à se faire tirer dessus, si
pas
je puis dire.
Hein. Oui, oui.
Et donc ça fait drôle, bien
ça
entendu.
Ça fait le même effet que l'entrée du train en gare de la Ciotat de Lumière, où les gens ont subitement...
Ils sont tombés de leur chaise.
Oui, etc. Que le train allait leur rentrer dans le ventre.
Alors, le western va être un des grands genres du cinéma muet, il faut le dire, quand même. On a un petit peu oublié ça aujourd'hui, mais on tournait beaucoup de petits films de cow-boys, si je puis dire comme ça. Hein.
Ça va être un des très grands genres du cinéma muet, pour des raisons assez simples. Les gens qui allaient au théâtre étaient peut-être un peu lassés d'entendre sans arrêt des dialogues. Avec le western muet, il n'y a plus de dialogue, mais il y a en revanche des chevauchées, des grands espaces, ce qu'ils ne trouvaient pas au théâtre.
L'arrivée du cinéma parlant va donner au western une dimension nouvelle, parce que vous l'avez dit vous-même, dans les westerns généralement on tire à l'arme à feu, il y a beaucoup de bang et de pan, et quand on peut les entendre c'est plus fort, évidemment.
C'est-à-dire, l'arrivée du parlant sera compliquée, parce que dans les premières années du parlant, le western va être uniquement une succession de petits films, de série B ou de série C, en général pas très intéressant. Pourquoi? Parce que quand le parlant arrive, les salles de cinéma s'équipent, techniquement, ça coûte très très cher, et le public, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'inverse. Il veut entendre des gens qui parlent, ou qui chantent, et qui dansent. C'est pas le western. On n'en a plus besoin. Alors, il a fallu attendre jusqu'à 1938, à peu près, où grâce notamment à l'arrivée de la couleur, le western a repris.
Alors justement, moi quand j'étais petit, je regardais les westerns sur une télévision en noir et blanc, et il a fallu attendre un certain temps pour que je découvre que les westerns, pour certains d'entre eux en tout cas, pouvaient être en couleur. Et ça, ça change tout, parce que l'un des atouts du western, c'est le grand décor. Car il y a ces extraordinaires décors de rocheuses, ces paysages à couper le souffle parmi les plus beaux de la planète, qui lorsqu'ils sont filmés en couleur, évidemment, vous transportent.
C'est encore plus beau.
Ah oui, ça c'est extraordinaire. L'arrivée de la couleur, c'est le milieu des années 30.
Oui, c'est ça, oui. À ce moment-là, le western, en effet, explose complètement. Les grands cinéastes, Cecil B. DeMille, Henry King, Raoul Walsh, William Wellman, Michael Curtis, John Ford, naturellement, qui avaient un petit peu délaissé le western, tournent des westerns. Et des acteurs qu'auraient jugé, qui se déjugeaient en tournant des westerns, Tyrone Power, Henry Fonda, James Stewart, vont tourner des westerns. Ça devient un genre à part entière.
Et James Stewart, Henry Fonda, à la fin des années 30, ce sont ce qu'on peut appeler des superstars. Pour qu'ils acceptent de tourner des westerns, ça veut dire qu'il faut que le film devienne en soi un genre noble, en fait.
Absolument. Hein. Avant, il n'en aurait jamais tourné.
Bien
Cinq
sûr.
Ans plus tôt, il n'en aurait pas tourné.
Eh oui, alors John Wayne, évidemment, il va devenir, lui, le cow-boy dans l'esprit du monde entier. Montgomery Clift, Randolph Scott, Tyrone Power et Rolph Lynn, pourquoi pas.
Oui, oui.
Humphrey
bon.
Bogart, James Kenney, Gary Cooper vont tourner dans les westerns, et de grandes comédiennes aussi.
Absolument, on va voir Marilyn, on va voir Jane Russell, on va voir Claudette Colbert, Barbara Stanwyck, oui, tout le monde va tourner des westerns, qui est devenu un genre vraiment à part entière.
Alors c'est au milieu du XXe siècle que le western devient un genre classique, d'une certaine manière. Et là, on va voir apparaître un certain nombre des œuvres qui, aujourd'hui encore, font la gloire du western.
Il est plus intéressant que jamais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il sort 3 westerns par an. Autrefois, dans les années 50, il en sortait 3 par semaine.
Incroyable.
Alors, il n'y avait pas que des chefs-d'œuvre, naturellement. Mais le genre était tellement riche que de très grands scénaristes, de très grands cinéastes tournaient des westerns, et en même temps, il y avait une nouvelle réflexion sur les guerres indiennes, sur le racisme.
Et justement, quelles étaient les sources des scénaristes? Ça, on va y venir dans un instant. Et quelle était la dimension politique du western? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
If you listen, you can hear it call. Whalery.
Whalery.
La bande originale du film La rivière sans retour d'Otto Preminger, chantée par Marilyn Monroe sur Europe 1, puisque cet après-midi nous nous intéressons à ces films des années 50, ces westerns, avec votre invité Franck Ferrand, Patrick Brion, créateur et animateur du cinéma de minuit sur France 3,
historien, FR3 à l'époque,
hein, FR3 effectivement, historien du cinéma et surtout auteur d'un magnifique coffret, l'encyclopédie du western aux éditions Télémac.
Alors là, j'ai ouvert le deuxième tome de cette encyclopédie qui n'est pas moins riche que le premier. Il y a des espèces de panoramas d'ailleurs, hein, qu'on déplie comme ça. C'est,
oui.
Je crois pouvoir, sans avoir l'air de faire de la publicité, dire que c'est un beau cadeau de Noël que vous nous faites, Patrick Brion.
Merci.
On se promène là-dedans, c'est magnifique. Alors, il n'y aurait pas de grand western sans indien, bien entendu. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment les westerns avec indien. Quand il n'y a pas d'indien, ça les intéresse moins, vous savez.
Ils
ça.
Ils considèrent que ce ne sont pas des westerns.
Voilà, c'est ça, oui.
Alors, il y a eu toujours, par rapport aux Indiens, une certaine ambiguïté. C'est vrai que dans certains films des années 30, c'est l'ennemi à détruire pour le pionnier qui a trouvé son terrain. Il vaut mieux que les Indiens n'existent plus. En revanche, à partir des années 50, mais même avant, il y a eu une réflexion plus sérieuse, plus dramatique sur les guerres indiennes, sur la manière dont pionniers, et le gouvernement américain d'ailleurs, le gouvernement américain lui-même qui a trahi tous les Indiens, à peine le gouvernement faisait-il un traité qui s'empressait de le dénoncer et de laisser les pionniers envahir les terrains qui étaient promis aux Indiens. Donc il y a eu une nouvelle manière de voir les guerres indiennes, c'est la flèche brisée, c'est la voilà. Croix du diable, c'est la prisonnière du désert.
Vous dites une nouvelle manière, c'est-à-dire une manière plus juste, d'une certaine manière plus nuancé,
plus historique,
oui, voilà, c'est ça. Oui.
Ça, c'est certainement. Et on, notamment John Ford, à qui on a reproché parfois d'avoir été un peu manichéen, ce qui n'est pas vrai. Dès le début, en fait, il a considéré l'Indien avec beaucoup d'attachement. On le voit dans La prisonnière du désert. En fait, entre le personnage de John Wayne et son adversaire, les deux sont des victimes. Les deux ont perdu des êtres chers. De leur famille.
On a l'impression que le western gagne en profondeur, en subtilité avec le temps. Vous allez me dire si je me trompe, Patrick Brion, parce qu'après tout, mais il me semble que par rapport au western des années 30-40, celui de la fin des années 50 devient beaucoup plus psychologique d'une certaine manière, et on s'intéresse à travers le western, c'est-à-dire en ayant le sentiment de raconter une histoire du 19e siècle, on s'intéresse à des problématiques qui sont celles du 20e, bien entendu, qui sont des problématiques d'actualité bien souvent.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est normal, puisqu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est arrivée. Ce sont des hommes qui ont fait la guerre, qui ont vu ce qu'était la guerre, qui se sont battus avec souvent des Indiens,
oui.
des Noirs, qui ils ont débarqué en même temps dans les mêmes combats. Donc, le thème du racisme devient un thème important, le thème de la fraternité le devient aussi, et on ne peut plus voir les guerres indiennes avec la même insouciance, inconscience ou naïveté, comme on veut.
Est-ce que ce genre s'exportait partout, parce qu'on sait qu'il y avait énormément de westerns dans nos cinémas français dans les années 50, c'était le cas à travers l'ensemble de la planète, c'est un beau produit d'exportation de l'impérialisme américain, le western.
C'était un excellent produit de l'impérialisme américain. C'est pour ça qu'il y a eu autant de westerns.
Oui,
il y en a eu moins.
Oui. C'était presque, à la limite, un instrument politique. Il faut le dire aussi, dans la période de la guerre froide.
Ah, c'était un instrument politique, oui, absolument.
C'est-à-dire qu'on mettait en avant une certaine idée de la liberté, de l'individualisme, etc., face au collectivisme et aux grands mouvements collectifs que le cinéma soviétique, par exemple, essayait de mettre en avant.
Oui, c'est certainement le genre le plus rooseveltien de tous les genres américains.
Alors, plus on avance dans le western, et plus il devient sombre tout de même. C'est notamment le cas avec les westerns des années 60, qui sont particulièrement violents aussi. C'est-à-dire que la violence un peu abstraite des débuts est devenue une violence concrète et parfois quasi insoutenable.
Oui, il y a en tout cas au moins deux phénomènes. Les années 60, c'est la guerre du Vietnam.
Mais oui.
Il est très difficile pour des nouveaux cinéastes de parler des guerres indiennes, alors qu'il y a la guerre du Vietnam, qui est une guerre, on le sait, en partie impopulaire. C'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre impopulaire. Ça, il y a le premier point. Les grands cinéastes ont commencé à disparaître, les grands acteurs aussi. Il y a toute une nouvelle génération, et cette génération, elle est tentée par la violence, parce que les actualités montrent des scènes extrêmement violentes, la guerre du Vietnam...
On s'habitue à cette violence, il faut le dire.
Hein. On s'habitue, Sam Peckinpah va tourner des films violents, voilà. Va tourner, quand on voit La Horde Sauvage, dans La Horde Sauvage, le shérif et les bandits que poursuit le shérif, en fait, sont tous des salauds. Il n'y a plus de héros. Et il y a le western italien.
Et le fameux western spaghetti qui va naître.
Alors là, c'est John Ford, enfin Sergio Leone, qui est le pape, si on peut dire, du western italien, disait chez John Ford, les gens se font face pour se tirer dessus. Chez moi, ils se tirent dans le dos. Alors en effet, qu'est-ce qu'on voit dans les westerns italiens? Des gens qui ont des sales gueules,
ah oui, là,
ils sont pas rasés.
Le bon, la brute et surtout le truand.
Il n'y a que des truands d'ailleurs en fait dedans. Il y a pratiquement pas de femmes. Il y a pas de loi. Il y a une violence exacerbée. Alors il y a quelques films réussis, quelques films intéressants qu'on a d'ailleurs essayé de mettre, que j'ai essayé de mettre dans le livre. Mais il y a surtout une...
Vous êtes pas très tendre hein, quand même. Vous êtes pas, c'est pas tellement votre domaine de prédilection, vous, ce western italien en fait.
Non, parce que d'ailleurs quand on en voit beaucoup, on voit tout de même à quel point c'est plutôt un tas de boue.
Oui, finalement, ils se ressemblent beaucoup aussi, c'est vrai.
Oui, non, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, les films de Sergio Leone et naturellement. Et il y en a d'autres qui sont aussi très très curieux. C'est ceux qui ont été réalisés par exemple Damiano Damiani ou Carlo Lizzani, qui sont en fait des westerns politiques. Donc ça, c'est intéressant. C'est le moment où certains cinéastes italiens de grand talent, au lieu de tourner des films policiers politiques, tournent des westerns politiques.
Il y a encore des westerns aujourd'hui? Je vous pose la question en ayant sous les yeux un certain nombre d'exemples de votre encyclopédie. Hein.
Oui, il y en a. Il y a un film de Tarantino qui sort dans quelques semaines. Il y en a un autre avec Leonardo DiCaprio qui sort aussi dans quelques
semaines.
Clint
Eastwood a fait de beaux films, de beaux westerns.
Hein. Il a réalisé en tant que réalisateur 4 westerns magnifiques, mais on voit à quel point le genre, il arrive à la trame, puisque dans le dernier, qui est Impitoyable, qui est un de ses plus beaux films, qu'est-ce qu'on voit dans Impitoyable? Une jeune femme, elle est tailladée par une crapule. Quand le héros que joue Clint Eastwood saute à cheval, il tombe. Et quand il tire sur quelqu'un, il ne le tue pas tout de suite. Et l'homme qui l'a blessé met des heures à crever, pardon, les mots, à crever en réclamant de l'eau.
Belle scène de cinéma quand même.
On rit plus du tout.
Non. Ben oui. Merci infiniment Patrick Brion. Votre superbe coffret encyclopédie du western est publié chez Télémaque. Et je voudrais signaler aux éditions Prisma cet ouvrage, la traduction de l'ouvrage de Franz Beckett qui s'appelle « Ma grand-mère cannibale » dont s'inspirait le récit de tout à l'heure. Merci infiniment d'être venu nous faire rêver de Grand Ouest et d'horizons infinis.
Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand vous donnera les origines de l'expression « des potrons minés ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question que vous pose Loïc sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous revenir sur l'origine de l'expression « des potrons minés » ou « des potrons jaqués » ?
Ah mais c'est bien, Loïc a raison de souligner cette deuxième expression beaucoup moins connue, « des potrons jaqués », qui a la même signification que l'autre, mais qui est beaucoup plus ancienne, puisqu'on en trouve des traces dès le milieu du XVIIe siècle, vers 1640. Elle a quasiment disparu, cette expression. Alors, « potron », qu'est-ce que c'est que le « potron » C'est une déformation de l'ancien français « poitron », on est là au XIe siècle. Ça venait du bas latin « posterio », qui voulait dire le postérieur, hein, l'arrière-train. Donc, quant à minet, minet, ça n'a pas changé de signification, ça veut dire le chat. Et jaquet, c'était l'écureuil autrefois. Donc, potron jaquet, c'était le derrière de l'écureuil, et potron minet, le derrière du chat. Et vous savez, quand vous êtes vraiment aux toutes premières lueurs de l'aube en train de vous promener, que vous voyez les chats qui disparaissent pour faire place, la nuit en quelque sorte se retire et fait place à l'activité et à l'animation du jour, vous ne voyez plus que la queue du chat, si je puis dire, ou celle de l'écureuil. Eh bien c'est ça, l'idée des potrons jaquets ou des potrons minets, c'est pas plus compliqué. Et voici Marion Ruggieri, bonjour Marion.
Bonjour Franck, aujourd'hui une émission spéciale puisque nous recevons des jeunes, ceux vous savez que certains ont appelé la génération Bataclan. Eh bien nous avions envie de leur donner la parole à la veille des fêtes pour leur demander comment ils voient la France aujourd'hui, ce qu'ils en attendent, comment ils jugent le climat ambiant, la classe politique, voire même le travail. des médias. Et puis nous recevrons aussi le philosophe Raphaël Antoven qui jouera les Monsieur Loyal de
J'espère
cette émission.
Que vous vous rangez dans cette catégorie, Marion. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons lundi, Anissa.
Alors, je ne serai pas à vos côtés, Franck, mais je vous souhaite quand même de très belles fêtes. Et lundi, vous serez là à 14h.
Et demain, le grand portrait.
Le portrait, bien sûr, consacré à Walt Disney, demain. Très bel après-midi à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 15h.